Alors, depuis quelques jours, nous parlons sur le mariage. Quelqu'un dit mariage. Oui. Est-ce que tu as été béni? Nous parlons sur le mariage. Et le thème, c'est toujours comprendre la volonté de Dieu dans le mariage. Alléluia. Wow. Nous touchons vraiment des points compliqués. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je prie vraiment le Seigneur de m'aider à toujours être pratique dans ce que nous sommes en train de partager. Parce que si la parole de Dieu ne s'implique pas dans notre vécu quotidien, elle n'a pas de sens dans notre vie. Amen. Ça devient un livre philosophique. Or, chaque fois que la parole de Dieu s'implique dans ta vie, ça veut dire que Dieu s'implique dans ta vie. Amen. Donc, ce matin, nous continuons, je crois, nous allons arrêter pour cette phase aujourd'hui et continuer dans un forum plus spécialisé. Amen. Dans le forum, nous allons vraiment traiter 1 à 2 heures, partager, partager, partager. Alléluia. Pour l'instant, en ce qui concerne le mariage à l'église, je crois que en finissant aujourd'hui, j'aurai dans toute sa largeur essayé de toucher les grands points. Amen. Alors, si quelqu'un au milieu de nous veut s'engager dans ce projet, il aura les points majeurs, les feux qui lui permettront de savoir s'il est au rouge, s'il est au jaune, s'il est au vert. Amen. Et si quelqu'un y est dedans, il va pouvoir savoir pourquoi la relation est sous perfusion. Alléluia. Et comment il faut faire pour sortir de la période de convalescence et rentrer dans la période de santé parfaite. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dis avec moi mariage. Dis avec moi mariage. Alors, nous essayons de toucher la période célibat et en même temps, on touche la période déjà mariée, avant d'être mariée et déjà aussi mariée. Alors, ce soir, cet après-midi, oh là là, on était hier encore ce soir. Proverbe chapitre 3, nous revenons toujours sur notre texte. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6. N'oubliez pas ce texte. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Est-ce qu'on y est? Est-ce que vous y êtes? OK. Alors, on va lire notre texte au nom de Jésus. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je reprends la lecture. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien aimés. Alors, n'oublions pas, le 28 mai prochain, ce sera notre dimanche Pentecôte. Amen. Pentecôte. La Pentecôte a lieu 50 jours après la Pâque. Alléluia. 50 jours. Et 50 signifie liberté, délivrance. 50 signifie libération de toutes sortes de captivités. Donc, la semaine prochaine, nous rentrerons dans un programme de prière qui va nous relâcher définitivement à la Pentecôte. Alléluia. Restez vigilants à ce programme. Reconnais-le. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Bien-aimé, toute la clé de notre vie est cachée dans ce verset. Pour pouvoir réussir dans ce projet que nous avons nommé le mariage, tu dois confier tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. Tu dois confier tout ce qui est dans ton cœur entre les mains du Seigneur. Tu ne dois pas t'appuyer sur ta sagesse. Et surtout, tu dois le reconnaître dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors, ce matin, je voudrais avancer et reconnaître deux choses. Vous savez, dans le processus du mariage, il y a des mythes. Il y a des mythes avec lesquels les gens grandissent. Il y a des mythes sur lesquels les gens s'appuient pour s'aventurer dans ce projet qu'est le mariage. Alléluia. Qu'est-ce qu'un mythe? Un mythe, c'est une réalité imaginaire. Alléluia. C'est une réalité imaginaire. C'est quelque chose que les gens croient, mais qui n'a aucun fondement. Est-ce que quelqu'un avec moi? Qui n'a aucun fondement, mais on y croit quand même. On y croit. On croit qu'il y a eu des gens comme des Zeus. On croit qu'il y a eu des gens qui étaient comme des géants étranges. Alléluia. Il y a comme ça des mythes, et des mythes vient le mot mythologie aussi. Alléluia. Des histoires qui ont un fondement imaginaire. Et qui est parfois la source de certaines expériences des hommes. Parce qu'ils ont vécu certaines choses, ils en font toute une histoire et ils crèvent sur ça certaines convictions. Et à la fin, on y croit, on dit, ah, tel avait pensé, nos ancêtres ont toujours dit que, tu crois que tu es plus sage que nos ancêtres, alors que les ancêtres dont on parlait étaient des grands soulards. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'étais pas là pour voir cet ancêtre-là. Alors, parmi ces mythes, je vais citer deux ce matin. Le premier mythe, c'est le fait que beaucoup de gens pensent que l'amour doit être le facteur le plus important pour qu'un mariage réussisse. Amen. L'amour doit être le facteur comment? Le plus important pour la réussite des mariages. Alléluia. Si je le pose comme question ici, tout le monde va dire, ah oui, oui, oui. Si je demande à tout le monde, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans un mariage? Tout le monde va dire, il faut d'abord qu'on s'aime. Alléluia. Il faut d'abord qu'on s'aime. C'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Tout le monde va dire, ah non, il faut que je l'aime, il m'aime, nous nous aimons. Amen. Alors, avant de démonter ce mythe, bien-aimé, il est important de dire que l'amour est un facteur important dans le mariage. Amen. L'amour est un facteur important dans le mariage et même dans une relation de fiançailles. L'amour est un élément important. Maintenant, je crois fermement qu'aucun homme ou femme ne devrait épouser quelqu'un qu'il ou qu'elle n'aime pas. Amen. Donc, là-dessus, on est tous d'accord. Cependant, la question est de savoir si le fait d'aimer quelqu'un est la seule garantie que votre mariage fonctionnera. Je crois que la réponse sera non. Alléluia. La réponse sera non. Genèse chapitre 24 nous raconte comment Isaac a épousé Rebecca, une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, mais qu'elle l'a réconfortée après l'avoir épousée. Amen. La Bible dit que quand il vit Rebecca, il l'aima. Mais avant, il ne l'avait jamais vue. Quelqu'un va dire non, c'était le coup de foudre. Je ne sais pas si le tonnerre lance encore les foudres aujourd'hui sur les gens. Alléluia. Donc, il faut vite se réveiller. Le principe ici est qu'il s'est mis à l'aimer après le mariage. Il ne l'a pas aimé avant le mariage. Alléluia. Notez que quand Eliezer, le serviteur de son père, va vers la tribu de son père, il va avec la dot de la femme. Amen. Il va avec la dot. Il conclut le mariage en l'absence d'Isaac. Donc, il rentre avec une femme déjà épousée. Physiquement, si elle ne te plaît pas, c'est ton problème. Si elle n'a pas les pieds, c'est ton problème. Si elle est aveugle, c'est ton problème. Si, bien aimé, tu encaisses tout ce qui vient. Si elle est grosse, alors que toi, tu voulais maigrichonne, tu encaisses. Donc, il n'y avait pas comme aujourd'hui Facebook où tu envoies la photo à l'autre. Oh, montre-moi comment tu es. Alléluia. Et il n'y avait pas Facebook où tu vas aller voler ses photos là-bas pour regarder à quoi elle ressemble. Il n'y avait pas les téléphones pour se partager la photo non plus. Alors, Isaac n'avait qu'à s'appuyer sur ce que son père avait dit. Ta femme va venir, c'est ta femme. Et il a dit, va chercher une femme dans ma tribu. Va chercher une femme là-bas pour mon fils. Il n'a pas dit, va chercher une fiancée. Ça veut dire qu'il partait prendre une femme. Il ne partait pas prendre une fiancée. Alors, quand elle venait, elle savait que l'homme-là, elle était déjà femme de quelqu'un. Elle-même n'avait jamais vu son mari. Alléluia. Elle-même n'avait jamais vu son mari. Alors, quel qu'il était, s'il était court, alors qu'elle voulait un homme géant, elle devait seulement accepter. S'il avait la bedaine, Alors qu'elle voulait un gars avec le ventre plat, elle devait seulement accepter. Est-ce quelqu'un avec moi? Et bien aimé. Alors, la Bible nous dit clairement que les deux se sont accordés au choix de Dieu. Rappelez-vous. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi à l'Éternel. David avait une entière confiance dans le Seigneur. Il avait une entière confiance dans le choix que Dieu avait inspiré son père. Alléluia. Alors, lorsque nous regardons ce principe de tous les patriarches dans les Écritures, il est le seul à avoir eu à ce que l'on pourrait appeler un mariage stable. Il est le seul qui a eu un mariage stable. Alléluia. Le seul. Le mariage d'Isaac a fonctionné principalement grâce à un engagement basé sur la conviction. Sur la conviction. Cet homme est l'homme de ma vie. Je dois l'aimer. Il faut que il m'aime d'abord. Je n'ai pas de choix, je dois l'aimer. Je dois apprendre à l'aimer. Alléluia. L'amour est venu dans le mariage. L'amour n'est pas venu avant le mariage. Dans Éphésiens chapitre 5, Paul recommande à la femme d'être soumise à son mari. Maintenant, moi, j'aime beaucoup jouer avec le mot soumission parce que soumission, c'est un mot qu'il faut diviser en deux. Sous et mission. Amen. C'est-à-dire que dans une mission, il y a un chef de mission. Et en général, Dieu a établi l'homme comme le chef. Pas chef parce qu'il est le plus intelligent. Pas chef parce qu'il est le plus sage. Pas chef parce que, amen, il plaît à Dieu de faire de l'homme le chef. Parce qu'il est le premier qu'il a formé. La femme a été formée pour l'homme et non le contraire. C'est ce que Paul dit. Alléluia. Et non le contraire. Alors, il est donc le chef de la mission et il faut le second qui est sous la mission. Alors, la femme vient donc comme l'aide dans la mission. Elle est sous une mission qui est confiée à l'homme pour pouvoir l'accompagner et l'aider à manifester cette vision. Alléluia. Et donc, tandis que l'homme, dans Éphésiens toujours 5, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Vous voyez? À la femme, il dit « soyez soumise ». À l'homme, il dit « aimez ». Parce que l'homme est un calculateur. Alléluia. L'homme est un calculateur. Il prend du temps pour aimer. Il apprécie, mais il n'aime pas directement. Alléluia. Il n'aime pas directement. C'est un chasseur. Il apprécie son gibier. Il apprécie sa proie. Alléluia. Ah, la biche, elle est jolie, hein? Alléluia. La biche, là, elle est jolie. Hein? Alléluia. Bah, ça s'arrête là. Maintenant, Dieu lui dit, tu dois aimer. Parce que Christ a aimé l'Église. Maintenant, l'amour dont il est question ici, ce n'est pas le fait de dire, ah, je t'aime, je vais t'écrire les poèmes d'amour. Non, l'amour dont il parle ici, c'est l'amour sacrificiel. Il dit, comme Christ a donné sa vie. C'est quoi quand vous allez voir un homme, aussitôt qu'il a un problème dans son foyer, il part chercher ailleurs. Ce n'est pas l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel veut que quel que soit le problème, tu es là. L'amour sacrificiel veut que quelle que soit la situation, tu te tiens à côté de l'autre. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, du point de vue de Paul, pour qu'une femme puisse faire fonctionner son mariage, la première chose à faire, et de se soumettre. Et pour qu'un homme puisse faire fonctionner son mariage, la première chose à faire, c'est d'aimer. Alléluia. Alors, beaucoup pensent qu'il suffit d'aimer quelqu'un pour passer le reste de sa vie avec cette personne. Je vous dis, bien aimé, 90% de mariages ne fonctionnent pas avec l'amour. C'est fini depuis les premiers mois ou les premières années du mariage. Alléluia. Beaucoup de nos mamans, à un moment donné, elles fonctionnaient avec nos papas. Pas parce qu'elle les aimait. C'était l'habitude d'être avec quelqu'un fini par dire, bon, ça va. Alléluia. Parce qu'avec le temps, elle découvrait des fautes graves. Amen. Des fautes graves qui ne les autorisaient pas à rester là. Mais parce que elles se sont trouvées d'autres supports sur lesquels elles peuvent se tenir. Alléluia. Pour avancer. Parfois, le support, c'était les enfants. Ah, à cause des enfants, je pars ou je dois rester là pour veiller sur les enfants. Alléluia. Amen. Donc, si pour bâtir une relation, tu n'es pas au-delà de l'amour, parce que l'amour qu'on parle, en général, c'est l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour charnel. Alléluia. C'est l'amour charnel. Et dès qu'un homme a cet amour-là avec une femme, c'est fini. Ça s'évapore comme la fumée. C'est fini. Il commence à dire, ah, comment tu es comme ça? Comment tu es bizarre comme ça? C'est pas comme ça que j'étais connu. C'est pas comme ça que tu étais. Vous voyez un peu bien aimé. Donc, l'amour n'est pas le facteur le plus important. Mais c'est un facteur important. L'amour seul ne suffit pas pour faire vivre un mariage. Et je vous ai démontré ça avec Éphésiens 5. Vous voyez que Dieu ne demande pas à la femme d'aimer. La femme aime naturellement. Elle a le potentiel pour aimer. Elle a été, si vous rentrez dans le livre de Genèse chapitre 3, vous allez découvrir que Dieu va dire à la femme, après, quand il va découvrir le péché qu'ils ont commis, il va dire à la femme, tes désirs seront portés vers ton mari. Autrement dit, quand une femme se retrouve à côté d'un homme qu'elle pense être le sien, naturellement, son cœur se penche vers lui.
Est-ce que quelqu'un me comprend?
Naturellement, son cœur se penche parce que c'est comme ça que Dieu a déterminé les choses. Ce n'est pas scientifique, c'est spirituel. Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez voir beaucoup de jeunes femmes, malgré toutes les relations qui ont été catastrophiques dans leur vie, malgré même leur dureté, il y a toujours quelqu'un que leur cœur se penche vers. Alléluia. Elle va être dure avec tous ces gens. Mais il y a un là, quand elle arrive, quand la personne l'arrive. Mais toi-même, tu vois la différence. Alléluia. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, l'amour a tendance à se dissiper et à s'étioler avec le temps à raison des pressions et des défis de la vie. C'est pourquoi les couples doivent constamment trouver les moyens de repenser leur amour l'un pour l'autre. Alléluia. Tu es un couple, tu vous mariez. Pendant les fiançailles, tu allais la prendre, vous allez manger, vous mangez. Quand elle en a le foyer, plus de resto. Est-ce que c'est normal, donc? C'est pas normal. Tous les occasions pour sortir, c'est quand quelqu'un se marie. C'est quand il y a deuil. C'est quand il y a 9-20, c'est là où tu dis, allons, cours, t'as pas d'habits comme pour moi. Alléluia. Tous les habits qui sont même couleur dans la maison, c'est parce que quelqu'un s'est marié. C'est parce que quelqu'un a eu deuil. Ah, quelqu'un dit, il a commencé. Alléluia. Tu ne peux pas marcher, tu dis, ah. J'aimerais que ma femme porte la qualité d'habit ici et moi aussi, on porte le même, comme on aime bien porter en symbiose. Alléluia. Non. J'attends le prochain mariage, le prochain deuil, pour payer le pagne et payer sa part. Alléluia. Tu l'aimes, mais vraiment, tes occasions-là, elles ne sont pas bonnes. Alléluia. Tes occasions-là, elles ne sont pas bonnes. Amen. Alors, sinon, bien-aimé, sinon le sentiment d'être sous un nuage le jour de votre mariage ne durera pas. Ne durera pas. Il y a des jeunes couples aujourd'hui, lorsque tu les regardes, c'est comme si c'est papa et maman. Alléluia. C'est comme si c'est ton grand-père. La jeunesse qu'ils ont en eux s'est étiolée. Dans la maison, on est... Vous savez, moi, j'ai toujours dit que si je vois un jeune couple pour moi, c'est quoi? C'est un couple qui au moins, qui a encore 5 ans, 6 ans, jusqu'à 8 ans de foyer, bien aimé. Si ce couple-là appelle l'autre par son prénom. Pour moi, c'est un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Appelle l'autre par son prénom. Hey. Donc, le jour-là, c'était le spectacle à la mairie. C'était le spectacle à l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimé, chacun doit venir avec quelque chose. Je vous ai dit, bien-aimé, lorsque nous entrons dans une relation, on doit venir dans la relation comme devant donner à l'autre. Et les chacun doit venir donner. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, si nous allons dans la logique, chacun pour sa part de donner, si Jean vient avec la pensée de donner et que Jeannette vient avec la pensée de donner, le foyer va être équilibré. Mais si Jean vient avec la pensée de donner et que Jeannette vient avec la pensée de recevoir, le foyer là va être compliqué. Difficile. Et vous allez voir ça dans beaucoup des foyers de nos parents. Parce que nos papas dans les temps ne savaient pas qu'on donnait. Et ils prenaient seulement. C'est pourquoi nos mamans mouraient vite aussi. Parce qu'elles encaissaient, les maladies. Elles avaient toutes sortes de maladies. Lui, il était tout bien portant. Bien portant. Tu ne comprends pas. Parce qu'elle passe le temps à donner. Elle donne tout ce qu'elle a. Et parce que dans la relation, la femme est toujours celle qui donne le plus. Toujours. L'homme donne, mais de temps en temps, il devient trop intelligent. Il se recule et puis regarde. Et la femme donne. Elle donne même sa santé physique. Alléluia. Vous allez voir des jeunes couples, mais la femme est déjà comme une vieille femme. Le mari est tout mignon, chaud, avec son teint clair chocolat. Alléluia. Et la femme meurt à côté. Elle meurt. Il dit, ah, je t'ai donné la maison, non? Je t'ai donné une maison. Je t'ai donné les enfants. Qu'est-ce que tu veux encore? Il oublie que le mariage, ce n'était pas les enfants au départ. C'était d'abord personne à personne. Toi et moi. Les enfants viennent après. La maison vient après. Je t'ai connu, tu avais la maison. Je t'ai connu, tu avais le travail. Maintenant, tu mets ça sur la table. La relation fictionne. Alléluia. Alors, dans toute relation, il ne faut jamais oublier d'où nous sommes partis. Quelles étaient les premières paroles qui nous ont rapprochés? Parce que si on oublie ces paroles, c'est pourquoi le Seigneur met en garde tout homme qui renonce à l'amour de sa jeunesse. Amen. L'amour de sa jeunesse, ce n'est pas la première fille que tu as connue dans ta vie. Oh oui, quelqu'un va dire, ah, c'est qu'on va tous rentrer à 15 ans. Ou bien certaines filles vont dire, on va donc tous rentrer à 14 ans. Amen. Non. L'amour de tes jeunes, c'est une relation qui était importante dans ta vie et qui a payé le prix pour que tu sois là où tu es. Et quand tu es devenu ce que tu es, tu l'as mise de côté. Quand il a payé tes études jusqu'à ce que tu aies eu le doctorat, tu es allé en Europe fréquenter, tu es revenu, tu as trouvé qu'il n'est plus à la hauteur de ton éducation. Tu l'as mis à côté. J'ai connu un mariage comme ça. Un jeune homme, il a sponsorisé une fille. La fille lui a dit qu'elle portait sa grossesse. Et le gars chaque jour envoyait l'argent pour prendre soin de l'enfant. Et il prenait soin de faire la capture de tous les monnaies, orang monnaie. Il faisait la capture, il garde. Les conversations, il garde. Et la veille même, la fille, entre-temps, s'est fiancée avec un autre gars qui est venu au Cameroun pour l'épouser. La veille de leur mariage, la fille lui demandait encore l'argent pour amener l'enfant à l'hôpital. Il dit, la veille de la dot, pendant qu'elle était en train de se faire doter, elle lui disait, tu sais que je t'aime, je ne vais jamais t'oublier. Vraiment, tu es l'homme de ma vie. N'est-ce pas, on a les projets de mariage ensemble? Le lendemain, elle allait à la mairie. Elle allait devant Dieu. Et le même lendemain, quand on l'amenait à l'église, elle écrivait que, ouais, tu envoies alors le monde est là à quelle heure? Quelqu'un dit sorcellerie. Alléluia. Et le gars dit, ouais, maman, je t'envoie tout à l'heure dès que je finis telle situation. Et il envoie, il fait la capture. Une semaine après le mariage, quelqu'un qui était proche au gars et qui était aussi au mariage, le gars, c'est comment? Il y a toujours quelqu'un qui observe. Il allait dire au gars, tu sais que la fille s'est mariée, il ne croyait même pas. Il a dit, quel jour elle s'est mariée? Il dit, le week-end, si. Il dit, non. On a causé, voilà notre conversation. Le gars a dit que bon, la seule chose pour t'aider, c'est de démonter les photos. Amen. Il a sorti les photos, il a dit voilà. Le gars a failli tomber des nues. Le gars est entré dans une dépression. Dépression. Il a menacé de rendre public toutes les photos de leur relation sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Qu'est-ce que la fille voulait? Elle voulait jouer sur deux tableaux à la fois. Garder l'autre tout en... Et en faisant les investigations, elle s'est rendue compte qu'en réalité, elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle n'était pas enceinte. Dans le cas financier, une histoire qui n'existait pas. Dans la vie, sois sage. Alléluia. Sois sage. Et ça va dans tous les deux sens, hein. Alléluia. Ça va dans tous les deux sens. Parce qu'on peut dire, ah, quelqu'un va dire, ah, les femmes, elles sont toutes les mêmes. Non! Les hommes aussi. Je connais un jeune homme qui a vécu plus de 10 ans avec une jeune fille. Il dit, non, tu es ma femme, je vais t'épouser. Dans la même maison. Alléluia. Un week-end, il lui dit que bon, je vais au village, je reviens. Va voir ma mère. Elle est un peu souffrante. Il partait se marier, les amis. C'est sa femme qui regarde la photo de profil d'une de ses copines. Elle voit le gars. Elle s'est d'abord évanouie, hein, avant de se réveiller. Que non, je rêvais. Nous avons des histoires comme ça autour de nos vies. Alléluia. Des personnes étranges. Alors, si nous ne comprenons pas que nous devons avoir un minimum de discernement dans notre marche relationnelle, nous allons avoir des chocs de cet ordre-là. Vous voyez? Vous ne pouvez pas épouser toutes les personnes. Tout à l'heure, je dis. Le premier mythe, c'est quoi? L'amour n'est pas le facteur le plus important. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aimer tout le monde que tu vois. Alléluia. Tu ne peux pas aimer tout le monde. La plupart des hommes aiment leur mère et leur soeur. Mais cela ne suffit pas pour épouser l'une d'entre elles. Alléluia. Papa Martin, tu aimes beaucoup ta maman, non? Mais est-ce que tu as épousé ta mère? Tu aimes tes soeurs, non? Mais est-ce que tu les as épousées? Non. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux mariages fondés sur le coup de foudre échouent. Alléluia. Car lorsque les nuages se sont apaisés, la réalité les frappe de plein fouet. Alléluia. Pour qu'il y ait un coup de foudre, il faut que les nuages soient remplis au ciel. Maintenant, quand le ciel s'éclaircit, il n'y a plus de foudre, la relation aussi s'arrête. Le deuxième mythe, bien-aimé, c'est le mythe qui semble déterminer ce que les jeunes gens et les jeunes filles recherchent chez leurs partenaires. Amen. Et c'est la question de compatibilité. Il faut qu'ils soient compatibles à moi. Il faut que nous soyons compatibles. Je ne peux pas épouser ou accepter la demande de quelqu'un qui n'est pas compatible à moi. Bien-aimé, si vous demandez aujourd'hui aux jeunes ce qu'ils aimeraient chez leur futur partenaire, parmi les éléments qu'ils vont citer, bien-aimés, vous allez entendre qu'ils veulent quelqu'un qui soit compatible à eux. C'est pas vrai? Tout le monde veut quelqu'un qui est compatible. Mais par compatibilité, bien-aimés, ces personnes entendent quelqu'un qui a les mêmes goûts qu'eux, qui a les mêmes passe-temps ou des passe-temps similaires, qui a un niveau d'éducation, un niveau social similaire, qui a généralement le même comportement qu'eux. Alors, je parle aujourd'hui sous le contrôle d'un docteur qui est là. Même les jumeaux qui se ressemblent ne sont pas compatibles. Alléluia. Même les jumeaux qui se ressemblent ne sont pas compatibles. La preuve, ils ont chacun leurs empreintes. Alléluia. Quand vous allez faire les cartes d'identité, quand ils font leurs cartes d'identité, c'est que Jean, son empreinte digitale n'est pas comme pour son frère jumeau. Dieu est trop technique. Parce qu'il connaît votre histoire de compatibilité. Alléluia. Alors, il est important de comprendre que nos goûts et nos choix ne peuvent pas être les mêmes. Toi, tu aimes bleu, la couleur bleue, moi j'aime la couleur jaune. Alléluia. Malheureusement, nos goûts et les choses que nous aimons sont fonction également de notre environnement. Si toi, tu es né d'une famille pauvre et toi d'une famille riche, vous n'aurez pas les mêmes goûts. Alléluia. Si toi, tu es né dans une famille stable et toi tu es né dans une famille instable, vous n'aurez pas les mêmes goûts. Si toi tu es né dans une famille chrétienne et que toi tu es né dans une famille idolâtre, vous n'aurez pas les mêmes goûts. Alors la compatibilité n'est qu'un mythe, n'est qu'un, pour certains c'est une excuse pour envoyer les candidatures. Non, on ne se ressemble pas. Tu ne peux pas te ressembler avec ton mari. Tu ne peux pas te ressembler avec ta femme. Amen. Non, non. À quel moment vous vous ressemblez? Quand votre amour devient parfait. Quand votre communion devient parfaite. Vous allez voir certains couples aujourd'hui, on dit, mais vous vous ressemblez. C'est grand frère et petit frère. Alléluia. Quand la relation arrive au niveau où vous devenez soeur et frère, est-ce que Moïse, Abraham a dit, lorsqu'on lui a demandé, est-ce que Sarah était sa femme, il a dit non, c'est ma soeur. Certains vont prendre ça comme, ah, c'est le mensonge. Non, ils étaient arrivés dans une relation qu'ils étaient devenus comme frères et soeurs. La Bible dit que le roi Abimelech a vu comment Abraham jouait avec Sarah. Il jouait avec Sarah. Il a dit, il y a quoi entre vous? Vous êtes, c'est ta soeur, c'est ta femme. Il dit non, c'est ma soeur. Il dit, ok. Et la Bible nous renseigne clairement que, en fait, c'était sa femme, c'était sa sœur, demi-sœur. C'était sa demi-sœur. Alléluia. À cette époque, on ne connaissait pas, la science n'était pas encore évoluée pour qu'on connaisse ces choses que le docteur va nous faire connaître. Alléluia. Qui nous dérange toujours quand il faut se marier. Alléluia. Quand on va se marier, il y a également la compatibilité sur le plan physiologique. Est-ce que vous êtes compatible pour avoir des enfants? Là-bas, ça marche. Mais sur le plan relationnel, émotionnel, tu ne peux pas être même comme l'autre. Alléluia! Tu ne peux pas être même comme l'autre. Ok, moi je suis brun, moi je vais épouser les filles brunes. Alléluia! Ok, moi je suis gros, je vais aimer une femme qui a les fesses. Alléluia! Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous changeons régulièrement d'environnement et sommes exposés à d'autres choses. Certains de nos goûts peuvent changer. L'âge nous aide également à redéfinir nos goûts, car les choses qui nous ont motivés dans notre jeunesse n'ont plus le même impact sur nous lorsque nous vieillissons. Alléluia. Lorsque nous vieillissons. Alors, la question de la compatibilité comme base importante du mariage est un mythe, car il n'y a pas deux êtres humains identiques sur la terre. Chacun est unique. Abel est unique. Amen. Abel est unique. Merveille est unique. Il n'y a pas deux merveilles. Claire est unique. Si demain un homme vient, il fait comme Claire, suspect. C'est pourquoi dans un ménage où il y a deux personnes qui ont le même caractère, la maison va prendre feu. Si tu es colérique, ton mari est colérique, mais c'est le MMA. Alléluia. Les combats de minuit, les combats de deux heures. Alléluia. Où il faut se réveiller la nuit pour vivre le combat. Je me souviens d'un voisin comme ça. Tous les jours, c'était la bagarre avec sa femme. Tous les jours. La femme sortait avec la serviette. Un coup dans le quartier. Un coup, lui, il est derrière avec sa part de serviette. Oh, 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 je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. Après, il rentre encore dans la même maison. Le lendemain, il se réveille. Le mari dit, pourquoi tu n'as pas fait mon petit déjeuner? Tu es fou, tu ne peux pas faire ta part. Ça reprend encore. Une maison comme ça ne peut pas être en paix. Dans une maison, il faut que si l'autre souffle le chaud, l'autre souffle le froid pour calmer les choses. Alléluia! Mais si vous êtes compatible dans les humeurs, si vous êtes compatible dans les émotions, ah, mais on est mort. On est mort. Si dans une maison, l'homme ne parle pas, la femme ne parle pas, qui va éduquer les enfants? Amen. Un jour, il y a une maman de mon quartier qui, son fils, a pris une jeune femme. Son fils, il n'est pas grand de taille, il n'est pas très grand. Alléluia. Lui, il allait prendre une femme au quartier toujours, avec qui il a eu des enfants et qu'il a dit à sa mère qu'il veut épouser. Sa mère dit jamais. Pourquoi? Parce que lui, elle était plus petite que lui. Alléluia. Elle dit, mais toi, tu es fou. Elle est plus courte. Vos enfants vont avoir quelle taille? Alléluia. Alors, si tu es court, il faut que Dieu te donne un long pour que les enfants aient une taille moyenne. C'est pas ça, Doc. Mais Dieu court. Et effectivement, la crainte de la maman s'est avérée parce que lorsque la femme a mis au monde, son premier enfant a grandi, mais il était toujours petit. Le deuxième est venu, il était petit. Le troisième était... La maman a dit que vraiment, mon fils, tu n'as rien compris à ce qu'elle t'a dit. Tu es allé à l'école, mais tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. La compatibilité dans les émotions ne marche pas. Si tu es chaud, que Dieu te donne quelqu'un qui est froid, qui va calmer la chaleur de ton corps. Alléluia. Quelqu'un qui est froid comme le glace, pas comme le glaçon. Parce que si tu as quelqu'un comme froid comme le glaçon, c'est encore critique. C'est encore critique. Bien-aimé. Dieu veut évoluer avec nous encore. Est-ce qu'on est béni? Alors, quelqu'un m'a posé la question la dernière fois. Comment savoir lorsqu'on est prêt pour entrer dans le mariage? Alléluia. Comment savoir quand on est prêt? Peut-être tu as trouvé ton Rebecca, ta Rebecca. Toi, tu as trouvé ton Bose. Alléluia. Quand Ruth a trouvé Bose, Bose, elle a trouvé comment? Il n'y avait pas d'amour au départ. C'était le service. Alléluia. Et c'était une recommandation de sa belle-mère. Va te coucher au pied de Bose. Il te dira ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que dans les lois du veuvage, ce n'était pas à Bose de faire son veuvage, c'était au cousin de Bose. Quelqu'un d'autre devait épouser Ruth pour lui donner une généalogie. Alors, quand on a amené Ruth au centre de la réunion familiale, Bose a dit, va, je vais convoquer la réunion familiale. Si l'autre là se désiste, je vais t'épouser. Amen. Et quand il y a eu réunion familiale, l'autre là dit que non, moi je suis déjà marié, je ne veux pas une deuxième femme. On a dit, ok,
Boaz a dit, ok, maintenant Ruth devient ma femme. Et il l'a prise comme femme et il lui a donné une progéniture. Et elle est devenue l'arrière-arrière-grand-mère de David. Amen. Amen. Elle est devenue un des ancêtres du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, peut-être tu as déjà choisi ta robe blanche ou tu as déjà choisi ton smoking. Alléluia. Ton costard. Comme mon fils Martial, quand il était ici, il était chaud mal. Alléluia. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Seigneur, près du corps, Jesus. Il faut qu'on agrandisse la photo là. Hein? Amen. Donc, tu es déjà prêt. Mais tu veux être sûr, tu es prêt. Tu veux être sûr. Tu te demandes comment être sûr que cette personne est... Que tu es prêt pour entrer dans le mariage. Comment être sûr que tu es prêt, que c'est le moment? Alléluia. Il y a plusieurs choses, bien-aimés. Première chose, première question, je vais les donner sous la forme d'une question. Première question qui va te permettre d'être prêt. Qu'en est-il de ta relation avec les autres? Amen. Qu'en est-il de ta relation avec les autres? Comment est-ce que tu te comportes avec tes parents, tes frères, tes sœurs? Est-ce que tu t'énerves souvent contre eux? Est-ce que tu emploies souvent des mots durs, moqueurs ou méchants pour exprimer ton point de vue? Qu'est-ce qu'ils diraient, eux, si on leur posait la question? Ton attitude envers les membres de ta famille peut te donner une idée assez précise de l'attitude que tu auras envers ton mari ou ta femme. Alléluia. Quel est le témoignage que ta famille la plus proche rend de toi? Si ta famille donne un témoignage appréciable, tu es prêt. Tu es prêt. Mais si ta famille dit, ah, dis donc, tu vas tuer l'homme là, ah, dis donc, toi là, ah, dis donc, ta bouche là va tuer l'homme là. Et si un homme vient dans ta ville, il est en mort. Va travailler. Alléluia. Va travailler. Parce que notre famille est notre première jauge relationnelle. Relationnelle. Si tu arrives à tenir au milieu de tes frères, tu tiendras dans ton foyer. Mais si tu n'arrives pas à tenir au milieu de tes frères, tu auras du mal à tenir dans ton foyer. Parce qu'il y a deux choses que tu ne peux pas vite quitter. Il y a la relation familiale. Ce n'est pas parce que tu as les problèmes avec ton frère que ce n'est plus ton frère. Hello? Maintenant, il y a la relation matrimoniale. Tu ne peux pas la quitter comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas la quitter. Ça a des valeurs importantes. Et il faut en prendre conscience. Deuxième chose, deuxième question. Qu'en est-il de ton caractère? Qu'en est-il de ton caractère? Es-tu optimiste ou une personne pessimiste? Es-tu raisonnable ou est-ce que tu insistes toujours pour faire les choses à ta façon? Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu restes calme quand tu es stressé? Es-tu patient? Si tu travailles les qualités dont parle Galates chapitre 5, le verset 22 à 23, ça t'aidera à te préparer pour une vie de couple. Alléluia. Ça t'aidera à te préparer pour une vie de couple. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. Galates chapitre 5, le verset 22. Quand vous allez au verset 22, vous voyez le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Toutes ces valeurs doivent se retrouver en toi pour transformer ton caractère. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a également une autre question. Qu'en est-il au niveau de l'argent? Bon, avant d'arriver au niveau de l'argent, restons un peu dans le caractère, bien-aimé. Il est important de savoir que l'odeur du caractère est pire que l'odeur du corps. Si ton caractère n'est pas travaillé, tu auras du mal à rester avec un homme ou une femme. Tu auras du mal à faire plus de 2 jours avec une personne. Alléluia. Tu auras du mal. Alors, si déjà une, deux, trois personnes se plaignent de ton caractère, cela doit t'interpeller à travailler. À travailler. Je le répète, à travailler, mes bien-aimés. Il y a des gens qui ont un caractère, et je reviens tout sur ce caractère, parce que c'est tellement vulgaire dehors. Et Jacques a beaucoup parlé dessus, la langue. La langue. Il y a des gens qui ne connaissent pas tenir leur bouche. Si tu es une femme et que tu n'arrives pas à tenir ta langue devant tes parents, tu n'auras pas de peur devant ton mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'arrives pas à tenir ta langue devant tes parents, l'homme ou la femme qui va entrer dans ton foyer, il est mort ou elle est morte. Parce que ta bouche va aller dans tous les sens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tenu compte de l'autorité qui était devant toi. Tes parents sont une autorité. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que c'est comme ça. Alors, ne respecte pas la personne. Respecte ce que porte la personne. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible demande d'honorer les parents. On n'honore pas parents parce que c'est Jean-Paul. On honore parents parce que c'est la valeur que Dieu a mis en cette personne. Qu'ils boivent, qu'ils insultent, qu'ils, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de celui qui l'a installé comme autorité. Toi, tu honores. Maintenant, j'aime beaucoup les Écritures parce que Dieu parle à tout le monde. Hein? Dieu parle à tout le monde. Il donne la dose de chacun. Alors, quand il dit aux parents, aux enfants d'honorer les parents, il dit cependant aux parents quelque chose. Il dit, vous les parents, n'irritez pas vos enfants. Maintenant, dans cette relation, les parents aussi doivent faire attention de la manière qu'ils gèrent leurs enfants. Parce qu'en fonction de la manière qu'ils les gèrent, cela détermine le type d'enfant qu'il va offrir aux hommes. Alléluia. Alors ne reste pas en tant que parent, tu dis, ah, tu dois me respecter, hein, même si je te fais ci, je te fais ça, je fais ci, je suis ton père, je suis ta mère. Non. Le Seigneur dit, attendez, est-ce que je vous montre? La parole de Dieu est claire. Et le Seigneur dit, n'irritez pas. Regardez, chaque fois qu'un enfant est irrité dans la justice de Dieu contre son père et sa mère, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, allons-y dans Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Éphésiens 6, le verset 4. Il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Colossiens chapitre 3, le verset 22. 21. Colossiens 3, le verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Qu'ils ne se fassent comment? Quand tu irrites un enfant, l'enfant ne croit plus en lui. L'enfant perd sa valeur. Alléluia. Alléluia. Mais regardez avant, au verset 20 de Colossiens 3. Il dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Obéissez en toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas un côté que tu ne dois pas obéir. Obéir. Selon le Seigneur. Maintenant, parents, vous aussi, attention. Si vous voulez créer un monstre pour demain, ce que vous allez produire dans sa vie va la détruire et elle sera un instrument de destruction pour d'autres. Alléluia. 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 Alors, il ne faut pas que la notion tel père, tel fils s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Il ne faut pas que le proverbe tel mère, tel fils s'accomplisse dans ta saison. Non. Alléluia. Si toi, tu as été indiscipliné, tu ne dois pas élever tes enfants dans l'indiscipline. Amen. Ce n'est pas parce que tu as vécu beaucoup de chocs dans ta vie que tu vas faire en sorte que ton enfant vive aussi les mêmes chocs que toi. La notion voudrait que tu l'en épargnes, n'est-ce pas? Hier, nous avons parlé beaucoup des blessures émotionnelles et du passé. Et j'ai évoqué quelques blessures. J'ai évoqué la blessure du complexe de perfectionnisme. Les perfectionnistes, ce sont des personnes qui veulent que les choses soient bien faites. Dans leur tête, ce n'est fait bien que par eux. C'est toi qui viens faire. Même si tu fais comment, tu n'atteindras jamais son seuil. Parce que son standard est très haut. Alléluia. Son standard est très haut. Et les personnes perfectionnistes sont en général intolérants. Intolérants par rapport à la faiblesse des autres. Intolérants par rapport à l'incapacité des autres. Ensuite, j'ai parlé également de l'hypersensibilité. Il y a des personnes hypersensibles. Hypersensibles. Ils font tout pour contrôler leur atmosphère. Amen. À cause de ce qu'ils ont vécu, ils essaient de tout contrôler autour d'eux. De tout contrôler. Si c'est une femme, elle va essayer de contrôler son mari dans les points les plus... Tu es rentré à quelle heure? Pourquoi tu rentres à 18h? Tu m'avais dit que tu rentrais à 19h, non? Tu as fait quoi? Tu as salué qui? Hein? Alléluia. Tu as salué qui en route? J'espère que tu ne me trompes pas. Ça veut dire que les hypersensibles ont déjà le scénario que tu vas les tromper avant même que tu aies même eu l'idée. Je savais. Dieu ne me trompe pas. Parce que ces révélations sont le reflet de son hypersensibilité. Ça se répercute jusque dans ses rêves. Et de telles personnes sont des personnes malades qu'il faut accompagner dans la prière. Parce que si tu n'es pas accompagné, tu vas être un danger pour les autres. Tu vas être un danger pour toi. Pour toi-même, personne ne pourra venir à côté de toi. Alléluia. Personne. Et tu vas dire que c'est le diable. Vous voyez? Donc, nous devons faire attention à notre caractère. Alléluia. À notre caractère. J'ai promis de reparler sur d'autres maladies la prochaine fois. Alléluia. Les absents ont eu tort. Allez écouter le message. Vous allez être bénis. Ensuite, nous parlons de la quatrième question. C'est ça, n'est-ce pas? La troisième question, qu'en est-il? Qu'en est-il au niveau de l'argent? Amen. Qu'en est-il au niveau de l'argent? Bien-aimé, comment est-ce que tu gères ton argent? Est-ce que tu as souvent des dettes? Es-tu capable de garder un travail? Sinon, pourquoi tu n'arrives pas à garder le travail? Est-ce que c'est à cause du travail en lui-même de l'employeur? Ou est-ce que c'est à cause d'une habitude ou d'un trait de caractère que tu devrais corriger? Si tu as du mal à gérer ton argent, tu auras encore plus de mal à gérer le budget d'une famille. Alléluia. Quand tu es seul, tu n'arrives pas à faire des économies. Ce n'est pas quand tu auras un couple que tu pourras garder de l'argent. C'est impossible. Amen. C'est quoi? Tout se bâtit avant, pas à l'intérieur. Timothée chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée 5, 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu est compliquée. Hein? Il y a des versets que quand tu lis, tu n'as même plus besoin d'expliquer. C'est très compliqué. Donc, bien aimé, en ce qui concerne la gestion de l'argent, il faut que les uns et les autres puissent traiter ça avant. Il y a des gens que lorsqu'ils entrent dans le foyer, ils deviennent des inquisiteurs sur tes finances. Les inquisiteurs, ça veut dire que quoi? C'est quelqu'un qui s'assoit sur ton porte-monnaie. Amen. Rien ne doit sortir sans qu'elle ou qu'il ne te donne le OK. Je vous ai partagé le témoignage d'un pasteur que même pour que sa femme était cadre dans une, elle est cadre dans l'administration du Cameroun. Amen. Dans une administration. Mais à l'église, c'était cet homme qui donnait l'offrande à sa femme. Elle ne donnait pas l'offrande sans son autorisation. Amen. Il était pasteur. Hein? Quand c'est l'heure des offrandes, sa femme le regarde. Ils font ça. Est-ce que le jour où on ne donne pas l'offrande? Alléluia. Alléluia. Quand c'est le jour qu'il a, il lui-même sort, il compte, il lui donne, elle met dans l'enveloppe, elle n'est pas déposée. Ce n'est pas à elle d'initier le projet. Vous voyez? La norme est que, bien-aimés, nous tous, et même la loi nous dit que lorsque nous nous marions, nous décidons de comment nous allons gérer l'argent, n'est-ce pas? C'est ça un bien commun ou bien chacun va gérer son salaire si chacun travaille. Amen. Maintenant, parfois j'entends souvent des personnes dire non, quand c'est mari, l'argent de la femme c'est pour sa famille, l'argent du monsieur c'est pour la famille. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Ça, c'est la réflexion de quelqu'un qui a été désabusé. C'est la réaction de quelqu'un qui a été trompé. Alors, il a mis les garde-fous pour se sécuriser. Il a trop entendu l'histoire des gens qu'on a escroqués. Quand vous vous mariez, vos deux fonds, vos deux contributions permettent à la famille d'être équilibrée. Dieu vous a béni pour qu'ensemble vous portiez vos enfants avec. Alléluia. Maintenant, on tombe devant certaines sociétés. Il y a ce qu'on appelle la société matriarcale, il y a ce qu'on appelle la société patriarcale. La société matriarcale, c'est qu'il y a des hommes dans la famille, quand il est marié à toi, l'argent qu'il perçoit, il s'occupe des enfants de ses soeurs avec. Ses soeurs ont plus de droits dans ta maison que toi-même. Est-ce que quelqu'un voit ça? Aïe, c'est très compliqué. Quand ses soeurs viennent à la maison, elle est à l'aise. Quand tes soeurs viennent, elle trouve tous les défauts à tes soeurs, mais trouve toutes les qualités à ses soeurs. C'est ça la société matriarcale. Alléluia. Les sociétés patriarcales, c'est le contraire de l'autre. Alléluia. Et parfois, c'est très compliqué. Nous vivons dans des sociétés où les parents, le père par exemple, élèvent les enfants de ses soeurs. Et vous n'avez pas d'éducation. Les enfants de ses soeurs ont leur argent de scolarité, toi. Tu fais comme ça pour avoir 100 francs de ton propre papa. Alléluia. Il célèbre plus les enfants de ses soeurs que ses propres enfants. Et c'est un danger. Vous, en tant que chrétien, vous n'avez pas le droit de faire cela. Amen. Si en tant que chrétien, tu te retrouves dans ce genre de conneries, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que la priorité d'un homme, ce sont ses enfants. Le plus grand investissement d'un homme, c'est sur ses enfants. Ceux qui vont t'enterrer demain, ce seront tes enfants. Ceux qui vont prendre soin de toi demain, et sans se plaindre, ce sera tes enfants. Regardez, maman, j'ai tout à rendu témoignage d'une tante qui est décédée. La petite soeur a ça. Maman, elles l'ont soignée pendant un bon moment. Elles l'ont rendue. Amen. Mais si ça avait été sa maman, elle l'aurait jamais fait. Jamais. Parce que c'est sa maman. Même si elle restait là, 100 ans, ça ne la générait pas. Parce que c'est sa mère. Mais quand ce n'est pas ta maman, c'est la sœur de ta maman. Oui, c'est ta maman. Mais il y a un sentiment d'appartenance. Alléluia. Donc, il est important pour nous de pouvoir faire attention à ces choses-là. Et une dernière question qu'il faut se poser, qui te permettra d'être prêt. Qu'en est-il de ma relation avec Dieu? Alléluia. Qu'en est-il de ma relation avec Dieu? Qu'en est-il de ma relation avec Dieu? C'est très important. Qu'en est-il de ma relation avec Dieu? Que fais-tu pour renforcer ta relation avec Dieu? Est-ce que tu lis et médites chaque jour ta Bible? Est-ce que tu partages la bonne nouvelle? Est-ce que la présence de l'autre va influencer négativement ma relation avec Dieu? Ou va la renforcer? Amen. L'autre qui arrive dans ma vie, me permettra-t-il ou elle d'aller haut avec Dieu ou redescendre en bas? Alors, quand on parle de relation avec Dieu, on parle aussi des valeurs que nous apportons dans la relation. Quelle valeur à l'autre? Quelle valeur? Bien-aimé, quand j'ai connu maman, un des tests que j'ai fait dans ma vie sur elle, c'était le test de l'argent. Alléluia. C'était le test de l'argent. Comment? J'avais dit devant le Seigneur, si celle que tu m'apportes n'influence pas ma faveur divine, c'est la bonne personne. Si au contraire, quand elle est à côté de moi, ça monte, c'est la bonne personne. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, hein, les petits réseaux que tu avais, ça sèche. Hein. Ton petit puits que tu puisais, quand les moments de sécheresse étaient arrivés, tu avais quand même ton petit puits d'eau. L'eau la sèche. Tu ne comprends rien, c'est pas ça. Chaque fois qu'elle venait me rendre visite, je lui donnais un peu d'argent de poche, le peu que j'avais. Alléluia. Quelqu'un dit, tu donnais combien, papa? Je donnais le peu que j'avais. Et comme ça, et chaque fois que je donnais, je voyais un peu comment ma semaine devait réagir. J'allais prier chez des gens et on me bénissait. 500 fois plus que ça. Je dis, aïe, peut-être c'est elle. Amen. Quand j'allais en mission, elle venait, elle me dit, ah, je suis passé chez toi là pour ouvrir. J'ai dit, pardon, il faut passer, tu ouvres les fenêtres pour que les frères entrent dans la maison le soir en repassant, tu les refermes. Et quand elle arrivait, elle dit, ah, je suis foiré. J'ai dit, tu sais là où il y a l'argent, prends ta quantité, tu les le reste. Elle prend. Elle me dit, je prends combien? Elle dit, prends ta quantité. Elle dit, non. La qualité, si c'est pas bon. Elle avait le sens. Alléluia. Maintenant, dit qu'elle me dépouille. Maintenant, elle se réveille. Amen. Et c'est comme ça qu'elle prenait, mais Dieu ouvrait toujours une porte plus grande que celle qui était en arrière. Et je disais que, waouh, cette femme apporte quelque chose dans ma vie. Alors, un jour, j'étais à Ebolova pour une mission. Et c'est le jour où j'ai dit non, c'est la bonne personne. Et je suis rentré, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, j'ai touché mon salaire aujourd'hui. J'ai dit, ah, bravo, c'est bien. Elle dit, ah non, je suis passé chez toi, j'ai déposé à la maison chez toi. Quand tu vas rentrer, on va réfléchir sur comment. J'ai dit, non, je ne t'ai pas encore doté, maman. Va prendre ton argent, hein. Tu pars chez vous, tu fais comme tu fais d'habitude. Je n'ai rien à voir, je n'ai pas encore donné 100 francs sur ta vie. Donc, je ne peux même pas toucher cet argent. J'avais des principes, pas comme les jeunes garçons aujourd'hui. Alléluia. À côté de moi, il y avait un pasteur qui a dit à une fille qu'il va la fiancer. Parce qu'à l'église, il avait toutes les jeunes sœurs étaient fiancées à lui. C'est-à-dire qu'il fiance maman Élise n'est pas au courant que Florence est dans la liste. Maman Gertrude est dans la liste. Telle est dans la liste. Amen. Tout le monde sait que non, c'est moi la titulaire. Alors, l'autre là, il passait chaque fin de mois à l'entreprise, le jour de la paye, il récupère son salaire. Il a béni. Bon, on se voit. Dis pas. Amen. Non, je n'étais pas comme ça. J'avais mes principes. Une de mes grandes sœurs m'avait dit, mon petit frère, sois sérieux dans ta marche. Si demain tu t'engages avec une femme, amène-la dans le restaurant. Rassure-toi que tu connais le prix du restaurant. Amen. Et si elle vient te rendre visite, raccompagne-la et paye-lui l'argent encore. J'ai dit, ok, grande sœur, bon conseil. Et c'est comme ça, je la ramenais chez elle et je lui donnais l'argent de la course. Je prends. Elle dit, mais tu m'as ramené. Il dit, non, garde, fais ce que tu veux faire avec. Amen. Et ce jour-là, elle m'a dit, elle a insisté. Elle m'a dit, je sais devant Dieu que tu es l'homme qui va m'épouser, tu es mon mari. J'ai dit que non, je n'étais pas doté. Si au moins je t'avais doté, je pouvais disposer, je pouvais accepter ce que tu es en train de me dire. Elle a insisté et elle a laissé l'argent là-bas. Elle a attendu, j'avais fait une semaine. Une semaine, je suis revenu, l'argent est resté là-bas. Entrée, elle est venue, elle me dit, maintenant on réfléchit sur les charges que toi et moi nous avons dans la famille. Qui est-ce qu'on doit aider avec cet argent? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu n'arrives pas à une relation, vous pouvez partager avec l'autre. Et que l'autre ait secret sur sa part. Je dis secret pas parce que quand on dit secret, c'est qu'on ne te presse pas. Hein? Il y a les gens qui disent non, je suis secret, pas l'autre me persécute. Il ne peut pas tout le temps me pose les questions. Je ne dis pas l'autre là, c'est les gens qui sont malades. Alléluia. Oui, quand tu parles, tu as demandé, tu gagnes combien, tu fais combien à ton mari ou bien à ta femme. Tu n'es pas normal, tu n'es pas bien. Amen. Ça doit être une relation de confiance, de transparence. L'autre se sent libre dans son cœur de te présenter ce qu'il a ou ce qu'elle a. Amen. D'apporter à la table familiale ce qu'elle a ou ce qu'il a gagné à la fin du mois. Et toi aussi, tu apportes et ensemble, vous réfléchissez pour le bien commun de la famille. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Non, c'est de ça que je parle. Si tu n'arrives pas, parce que la question financière, la question de la gestion de l'argent, dans la période où vous vous rencontrez, vous devez en discuter. Vous devez en parler. Alléluia. Bon, ok, demain, si on est même ensemble, on va gérer l'argent comment, non? Ah, ton argent, tu gères. Parfois les garçons sont très élogieux. Mais c'est quand vous allez entrer dedans que tu vas confirmer que c'était le piège. C'est pourquoi il faut chercher la face de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas délivré de l'argent devient un problème pour ta vie. Quelqu'un qui ne connaît pas que tu peux donner même 5 francs pour rien à quelqu'un. Alléluia. Pour rien. Pourquoi tu lui as donné 500? Pourquoi tu as donné Non. Non. Et c'est ce que la Bible appelle la libéralité. La libéralité. Quand quelqu'un n'a pas la libéralité en lui, c'est difficile de parler argent avec lui. Le jour où tu veux venir parler des problèmes de ta famille, tu réfléchis, tu dois faire une thèse doctorale. Alléluia. Tu contournes, tu prends les mapans, tu entres dans la brousse, tu sors, tu montes sur les arbres, tu montes sur les collines. Pour lui dire à la fin que non, c'est ma soeur qui a un petit problème là. Si on peut l'aider même avec 10 000 là, vraiment. Alléluia. Bien-aimé. Aimer l'autre, c'est porter le fardeau de l'autre. Si je t'aime et que je ne porte pas ton fardeau, ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Alléluia. Ça n'a aucun sens. Et que quand il porte ton fardeau, je ne me plains pas. Oh, vous voyez, comme elle est là-bas, c'est parce qu'elle porte son fardeau. Ah, non, non. Tu portes son fardeau dans la paix et dans la joie. Parce que c'est votre fardeau. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où la relation devient complice. C'est là où la relation devient saine. Alléluia. Parce que les questions qui pouvaient être des questions dangereuses de la maison deviennent des questions comme tous les autres. Alléluia. Ah, mon mari, il y a telle personne qui a tel problème. Si on a un peu d'argent, on peut un peu l'aider. Ah, ok, il n'y a pas de problème, alors tu l'aides. Ça va. Alléluia. Ah, on l'aide pourquoi? Ah, la dernière fois, son enfant était d'abord ici. Hein? Non, 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 les gens là, c'est les mauvais gens. Hein? J'ai même fait un mauvais rêve sur eux. Et ça repart. Et on repart dans toutes sortes de mélanges. Alléluia. Donc, qu'en est-il de ta relation avec Dieu? N'épouse pas un homme qui va mettre ta relation avec Dieu en danger. N'épouse pas une femme qui va détruire ta relation avec Dieu. Regardez Samson, il est allé chercher une femme qu'il a mis KO devant Dieu. KO, il a perdu ses yeux, ses cheveux. Regardez Salomon, il a épousé des femmes qui l'ont retiré de la présence de Dieu. La Bible dit qu'il a commencé à adorer les idoles de ses femmes. Et il leur a bâti des autels dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Ce que son père n'avait jamais fait, lui, il a fait. Il a amené des idoles dans la maison de Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause, parce qu'ils veulent complaire et plaire à l'autre, ils mettent des idoles dans la présence de leur Dieu. Et ça affecte leur communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, fais attention à ces points-là. Fais attention. C'est pourquoi pendant la période des fiançailles, il faut être exigeant. Amen. Il faut être exigeant. Il faut avoir des principes que toi-même tu peux atteindre. Amen. Pas des principes au-dessus de ta tête. Parce qu'il y a des gens qui mettent la barre que lui-même, il ne peut pas attraper. Il faut mettre la barre là où toi-même, si tu es à l'autre côté, tu peux avancer. Alléluia. Donc, il faut être exigeant. Regardez, Proverbe chapitre 10, verset 25, nous dit que quoi? Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu te bénit avec un homme ou avec une femme, ça doit t'enrichir. Cette personne doit apporter un plus à ta vie, émotionnellement, sentimentalement, physiologiquement, alléluia, psychologiquement, matériellement, financièrement. Tous ces éléments doivent booster ta vie. Amen. Et au-delà de ça, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que tu ne pleureras pas spécifiquement à cause de cette personne. Non. Parce qu'elle prendra les devants pour toujours apaiser ton cœur. Il prendra toujours les devants pour toujours apaiser ton cœur. Il ne fera pas les choses qui vont te mettre mal à l'aise. Amen. Soyons exigeants. Soyons exigeants. Tu dois être exigeant. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu veux. Amen. Être exigeant intègre, c'est de l'amour et du respect pour soi et son prochain. Alléluia. C'est ce que Jésus nous demande en Marc 12, 31. Il dit, le second qui est semblable au premier, celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que celui-ci. Amen. Parce que tu sais ce que tu sais. C'est aussi avoir une bonne conscience morale en parole et en acte avec un cœur sincère. C'est être ce que l'on dit et vivre non pas en apparence, mais dans la vérité et la foi en Christ. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vivent l'apparence. Quand tu l'épouses, tu dis que mince, on m'a donné Léa à la place de Rachel. Le truc qu'on a fait à Jacob. Alléluia. On t'a vendu un faux truc. Tu as vu une femme brave, tu dis, c'est la qualité des femmes, ce que je fais. Vous savez, quand on était à l'évangélisation un jour, j'ai partagé ce témoignage. Une des mamans avec qui on travaillait à l'évangélisation avait vu une sœur pour moi. Amen. Et cette sœur était grande, comme notre bien-aimé Clémenceau. Alléluia. Alors, quand je la regardais comme ça, Et la maman ne passait que le temps, elle passait le temps à me dire, prophète, prophète, tu vois la sœur là comment? Tu vois la sœur là comment? Dieu ne te dit rien. Et Dieu ne me dit rien, maman. Alors, j'avais constaté pendant une semaine que la fille se réveillait, comme on se réveille à 4 heures pour prier, elle se réveillait, après la prière, elle commençait à nettoyer la maison. Elle nettoyait la maison chaque jour. Elle nettoyait la maison. Vous savez, quand quelqu'un a mission et que quelqu'un veut quelque chose, alléluia, elle travaille. Un jour, je l'intercepte, je dis, hé, ma soeur, est-ce que tu ne te reposes pas souvent après la prière, toi aussi, tu peux dormir? Est-ce que tu as besoin de nettoyer? D'autres peuvent le faire. Et elle me répond, moi j'aime moi travailler. Moi, je ne connais pas moi rester comme ça sans rien faire. J'ai dit qu'il n'y a que le maçon qui ne sait pas faire le mur, hein, qui passe le temps à dire qu'il sait faire le mur dans la publicité. Donc, calme-toi. Et pour moi, ça a été un signe. Au-delà de bien d'autres. Amen. Que ce n'est pas la personne appropriée. J'avais besoin d'une personne qui soit libre de faire ce qu'elle veut faire et ce qu'elle ne veut pas faire. Alléluia. Que quand elle ne veut pas faire quelque chose, elle dit, je ne fais pas. Parce que. Amen. Ou bien que je fais parce que. Je ne voulais pas les bénir, oui, oui. Je voulais quelqu'un qui me dise, ta révélation là, tu es sûr? Qu'elle dit, hey. Tout le monde dit amen, sauf toi. Il dit, ok, je ne vais pas chercher encore plus la présence du Seigneur. Et ça a été pour moi un indicateur. Et quand nous avons fini la mission, la maman là, comme la fille, avait menti que ses parents étaient morts, qu'elle était orpheline à Baganté. La maman là l'a pris sur son aile, l'a amenée ici à Douala. Elle vivait chez la maman là. Elle sortait qu'à 18h. Elle revenait tard. La maman la croyait qu'elle sortait pour aller évangéliser. On l'évangélisait. Elle est revenue avec le fruit de l'esprit dans le ventre. Alléluia. Et la maman là m'a appelé. Elle m'a dit, mais prophète, tu avais vu l'histoire, c'est avant. Hein? Elle dit que les gens qui font trop les choses là, préfèrent quelqu'un qui était têtu. Et que c'est qu'il est têtu. Il sait comment il va gérer. Alléluia. Amen. C'est quoi vous devez prier pour avoir des personnes vraies. Pas des personnes qui vivent avec des mascaras spirituels. Chaque fois que tu la vois, elle est toujours chaud. Mais maman, viens même avec les cheveux en l'air. Je veux te voir comme ça, sans rien. Et j'avais dit ça à maman un jour. Je lui ai dit que je ne veux plus que tu te maquilles. Est-ce que tu peux ne plus te maquiller pendant combien? Elle dormait qu'avec sa boîte de maquillage. Ah! À chaque rencontre, elle sort. Alléluia! J'ai touché un secteur clé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle n'est même plus. Avant là, c'était mamie maquillage. Alléluia. Aujourd'hui, elle fait un peu là, bon. J'allais dire que tu sais, est-ce que tu peux arrêter de te maquiller pendant 2 mois? Elle dit quoi? Elle dit, chaque fois qu'on se voit, ne viens pas avec le maquillage. Alors, elle a pris la boîte de maquillage pour ne pas tomber dans le péché de son engagement. Elle a offert ça à quelqu'un. Okay. Tu donnes ta boîte de maquillage. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, prends. Prends seulement. Et comme ça, pendant cette période, j'ai pu la voir hors maquillage. Et j'ai pu voir sa constance. La vérité de son cœur dans son comportement aussi. Pas le comportement du mascara. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas trop transpirer. Elle transpirait, on voyait. Alléluia. 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 Celle-ci, on va marcher longtemps. J'allais la chercher à l'entreprise. On marche à pied. À quoi? Jusqu'à BP Cité.
rendez-vous.
Non, ben, ça arrivait. Ce n'était pas que c'était prémédité. Alléluia. Non, ce n'était pas prémédité. Je vous dis la vérité. C'est juste la conversation était bien. Il dit, marchons un peu. Marchons un peu. Et puis nous-mêmes, on se voyait à Bébé Cité. Et on est arrivé. C'est-à-dire que oui, prenons la moto ici et te laisse chez toi. Et je n'ai pas la déposer chez eux. Pap. Et je rentre. Pour moi, ça a été des éléments qui m'ont aidé à être orienté. Parce que je voulais quelqu'un dénué de tout artifice, qui soit vrai dans sa vie. Parce que je savais ce que je portais sur mon dos. Je n'avais pas besoin de jeunes filles bling-bling. Non. J'avais besoin de quelqu'un qui est prêt à se salir les mains, à retrousser les manches et à travailler. Alléluia. Et Dieu a fait grâce à beaucoup d'entre nous ici. Dieu a fait grâce. Alléluia. Donc Dieu t'a fait grâce aussi, non? Alléluia. Elle a retroussé. Elle retrousse. Maman Manon retrousse. Quand il faut entrer dans l'eau, se mouiller le maillot, elle mouille. Donc, et c'est ça, mes bien-aimés. Quand tu es avec un homme, si demain, et que tu es marié avec une femme, que toi, tu es absent dans sa vie, ça veut dire que tu es l'élément qui va la tuer. Tu vas la tuer. Et vice-versa. Vous devez avancer ensemble. Reculer ensemble. Stopper ensemble. Sauter ensemble. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'un ne dépasse pas l'autre. On avance ensemble. C'est pourquoi le péché de Ève, Adam a porté. Il a écopé. Amen. Il a écopé. Mais si seulement il avait pris ses responsabilités, Ève n'aurait pas eu tous ces problèmes aussi. Ses responsabilités. C'est pourquoi un homme irresponsable est une catastrophe pour sa famille. Irresponsable, c'est quoi? C'est un homme qui ne reconnaît pas ses erreurs. C'est d'abord ça, être un irresponsable. Irresponsable, ce n'est pas donner l'argent du marché, de la popote tous les matins. Non, c'est le moment où il n'arrive pas à reconnaître ses erreurs. Oh, c'est toi qui as toujours tort, c'est toujours toi qui as tort, c'est toujours toi qui as tort. C'est un homme irresponsable. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Dieu vient lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté. Dieu n'assume rien. Il n'assume rien. Papa Martin, si demain, maman Chambéline pas causé un tort là-bas, c'est toi qui assume, non? Tu dis, c'est ma femme. Quand on dit, c'est votre femme, tu dis, je l'avais épousée. Comme vous voyez là, mais au moment où elle a fait la faute là, nous, on depuis nous ensemble. Pardon, il faut la prendre. Va régler ton problème. Alléluia. C'est ton épouse. Devant Dieu, tu es irresponsable. Est-ce que quelqu'un est béni? On va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse les relations qui sont en cours ou qui seront en cours. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui sont déjà dans le projet et qui sont dans le projet depuis un jour, trois jours, un an, 10 ans, 20 ans, au nom de Jésus. Qu'il apporte la guérison dans le couple pour ceux qui vivent des moments conflictuels, des changes compliqués, que Dieu guérisse les plaies du cœur au nom de Jésus. Que Dieu apporte la paix, que Dieu apporte la guérison au nom de Jésus. Pour ceux qui sont encore dans les incertitudes et qui se posent mille et une questions, que Dieu vous donne les convictions. Que le Seigneur vous donne les convictions. Que le Seigneur vous donne les convictions. Que le Seigneur vous donne les convictions au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.